Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Un excellent dimanche avec RMC, merci de nous être fidèles. Chaque dimanche, 6h-8h, 2h entières dédiées aux animaux, seul RMC vous propose ce rendez-vous pour les passionnés, pour les amoureux des animaux et puis tout simplement aussi, parce que vous êtes nombreux à nous écouter, pour passer un bon moment, tout simplement, en compagnie de notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Notez que juste après, à partir de 8h en ce dimanche matin, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour l'automobile, comme chaque dimanche, vous le savez, 8h-10h. Au menu de cette deuxième partie, Laetitia, tout à l'heure, on va parler des vétos des animaux sauvages. On va parler aussi de la réintroduction des dissections d'animaux dans les collèges et lycées.
Alors que ça avait été interdit.
J'imagine que ça ne vous plaît pas, forcément beaucoup.
Non, pas du tout. Et puis, nous finirons par une belle histoire, celle d'un cheval, un très beau cheval d'ailleurs, qui a échappé 3 fois à l'abattoir grâce à la patience de Karina. Et nous découvrirons qui est Karina.
Voilà, qui est une photographe. Ce sera tout à l'heure. Mais pour débuter, on va s'intéresser à un ouvrage qui est sorti aux éditions Albin Michel. Laetitia, le chien est une personne.
Et oui, et c'est un ouvrage qui a été écrit par Philippe Hoffmann, qui est psychologue clinicien. Philippe, bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Alors, votre livre, au titre un brin provocateur quand même, hein, est une réflexion sur la place... est une réflexion sur la place du chien aujourd'hui et ses relations, son histoire commune avec l'homme. Alors, pourquoi un psychologue comme vous s'intéresse-t-il au chien ?
En fait... Moi, je suis un peu spécialiste de la famille. Je m'occupe à la fois d'enfants, d'adolescents et de seniors. Donc, je vois un peu tous les âges de la vie. Et dans ma pratique, j'ai remarqué que il y a souvent des gens qui me parlent de leurs animaux familiers. Et ils m'en parlent avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tendresse et parfois une forte intensité. Et ça m'a un petit peu ouvert l'esprit. Bon, bien sûr, moi aussi, j'ai des animaux et en particulier des chiens. J'en ai toujours eu, mais mon cas n'est pas du tout intéressant. C'est plutôt l'ensemble des milliers de personnes que j'ai vues qui m'ont permis d'écrire ce livre.
Alors, Philippe, vous dites que le chien n'est pas un animal comme un autre et vous dénoncez le fait, par exemple, qu'on compare trop souvent, peut-être trop facilement, le chien au loup.
Oui, alors j'ai observé ça, c'est dans tout ce que j'ai pu lire, il y a à la fois, pour tous les ouvrages de dressage canin, etc., il y a souvent une analogie qui est faite et c'est un peu un raccourci parce qu'en fait, le chien c'est quand même un animal très spécifique, un animal familier, hein, c'est même pas, on va dire, un animal domestique, c'est carrément un animal qui fait partie de la famille et qui est proche. Mais par contre, le loup, ça reste un animal sauvage. Et il faut bien dire les choses, c'est que les espèces se sont séparées il y a fort longtemps. Selon les chercheurs, ça serait il y a plus de 200 000 ans. Alors, vous voyez, ça fait un peu de temps.
Hein. Oui, c'est vrai.
C'est très compliqué de faire des analogies parce que les chiens ne fonctionnent plus en meute, à part quelques chiens sauvages, comme les licaons, par exemple, depuis très longtemps. Ils sont souvent affiliés aux hommes, comme le sont les chats, comme le sont d'autres animaux. Mais ce qui les intéresse surtout, c'est d'être proche de l'homme. C'est pas forcément d'être en meute avec un système de hiérarchie, de chasse, etc. Alors quand on les remet à l'état sauvage, ils redeviennent des chiens errants, mais ils ont pas forcément des comportements aussi caricaturaux que ceux qu'ils avaient quand ils étaient en meute. Quoi.
Voilà. Voilà. Mais alors, à quoi est due ce que vous dites qu'ils sont très liés au lion, à quoi est due cette fidélité sans faille, hein, qu'on dit souvent, qui le lie à l'homme?
Alors voilà, ça c'est particulier. Selon certains chercheurs, il n'y aurait que 5 animaux qui seraient affiliés aux hommes. C'est-à-dire que il y a les chiens, les chats, évidemment, les dauphins, les chevaux et les perroquets.
Ah bon ?
Vous voyez, qui seraient des animaux qui ont besoin en fait de l'homme pour qui vont naturellement vers l'homme. Vous voyez, les dauphins, même des fois, ils vont tellement vers les hommes.
Ils ont une attirance, en fait. Oui,
voilà,
oui, c'est
ils ont une attirance qui s'abîme sur les bateaux, enfin, etc. Et en fait,
est-ce que c'est preuve d'intelligence ou est-ce que c'est...
C'est non, de la curiosité, alors, peut-être.
Voilà, l'idée, c'est que bon, l'idée qu'ont certains chercheurs, et puis moi, je poursuis tout à fait cette idée-là, c'est que dans le fond, à partir du moment où on va vers l'homme, on va vers l'espèce la plus forte, et d'une certaine manière, on est protégé. D'ailleurs, la preuve, c'est que entre les chiens et les loups, il y a pas photo. Avant, il y avait des loups partout sur la planète. Maintenant, il en reste 150 000 et des chiens, il y en a plusieurs centaines de millions. Donc, c'est bien l'espèce la plus forte. Tout ça parce qu'elle s'est rapprochée de l'homme. Alors, bien sûr, nous, on n'est pas clair. Hein. Il y a des moments où on a rejeté l'espèce, où on s'en est servi, on l'a maltraité, ça continue même un peu à se faire, etc. Mais dans l'ensemble, ce qu'on appelle la niche anthropogénique, c'est-à-dire le fait que l'animal vient proche de l'homme pour exister et pour survivre, eh bien, le chien, il a su faire ça remarquablement, de façon merveilleuse. Hein. Il a su se rendre utile.
Non, mais je pense que l'intérêt est commun. Donc,
et alors voilà, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, mon hypothèse, et puis peut-être je rejoins quelques chercheurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont cette hypothèse-là. Il y a les gens qui étudient les chiens là, au laboratoire de Hongrie, là, qui ont un peu cette hypothèse-là. Ils pensent qu'il y a une interaction qui fait que, dans le fond, le chien nous apporte tout autant qu'on lui apporte. Mmh. Et on le voit bien, par exemple, avec des enfants, quand dans une famille, il y a un chien qui est présent, le chien va contribuer au développement de l'enfant. Alors ça m'a beaucoup intéressé en tant que psy, parce que, vous savez, il y a tout un tas de théories sur le développement de l'enfant, et jamais, dans aucune des théories, on aborde le fait qu'un animal pourrait participer à l'évolution humaine.
Ben c'est vrai que beaucoup de médecins, beaucoup de pédiatres hein, considèrent l'animal comme plutôt un porteur de germes nocifs pour l'enfant plutôt qu'un bienfaiteur pour l'enfant.
Voilà, alors bon, il y a toujours cette notion un peu hygiéniste, mais au-delà de... Parce que maintenant, on la dépasse un petit peu, puisqu'il y a quand même des chiens qui d'aide pour les handicapés, etc. Mmh. Donc on a dépassé un petit peu la notion hygiéniste. Mais dans le fond, ça reste toujours un animal, ça reste toujours un être contingent. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, la loi sur les animaux sensibles n'a changé qu'il y a un an. Hein. Donc, reconnaître la sensibilité aux animaux et leur vulnérabilité, ça n'a été acquis dans la loi française qu'il y a un an. Ce ne sont plus des biens meubles, ce sont des êtres sensibles, doués, qui sont vulnérables. Hein. Donc on doit les respecter en tant que tels. Alors après, bon, on peut étendre ça à tous les animaux, ça c'est les défenseurs des animaux comme Singer qui font ça, mais pour s'en tenir aux chiens, il est évident que les chiens nous apportent beaucoup d'éléments affectifs, structurent parfois notre pensée et voire notre langage, parce qu'ils ont une communication, on dit il ne leur manque que la parole, mais en fait ils ont une communication très sophistiquée, les chiens. Ils arrivent par un regard, par une posture, à nous faire comprendre ce qu'ils veulent et parfois à nous guider aussi dans leurs attentes ou dans ce qu'on devrait faire. Et par exemple, pour les enfants, ça leur donne le sens de la responsabilité, ça leur apprend ce que c'est que des limites. Si on laisse faire n'importe quoi à un chien, il va faire n'importe quoi, effectivement, ça peut mal tourner. Et donc l'enfant, en voyant qu'on lui donne des limites, apprend que les limites, c'est peut-être utile aussi. Pas simplement pour le chien, mais aussi pour lui. De la même manière, pour des tout petits, un chien, ça peut permettre à l'enfant d'apprendre à marcher. Mmh. Il y a des enfants qui ont un peu de mal à se mettre debout. Et en fait, quand ils ont un chien, souvent, ils vont peut-être l'imiter dans le quatre pattes, mais après, ils vont vouloir aussi se lever pour être près de l'encolure du chien.
Bien sûr. Voilà. Philippe, merci pour votre temps et merci pour toutes ces précisions. Voilà. Et on invite tous nos auditeurs
à lire ce livre. C'est vraiment passionnant. C'est justement les dernières données concernant le chien, la relation avec l'homme et tout ce que le chien peut apporter à l'homme et en particulier le bonheur. Je crois voilà. que Exactement. C'est un peu le, votre...
Voilà. Paris aux éditions, surtout, ouais. Et surtout, tous les gens qui sont en détresse aussi, qui ont recours au soutien de l'animal et en familier, en particulier du chien, c'est vraiment, je l'explique beaucoup dans ce livre et c'est vraiment essentiel.
Merci beaucoup Philippe.
Merci voilà. beaucoup.
À bientôt.
Philippe.
Merci, à
Merci.
Bientôt.
Au revoir.
Paris aux éditions Albin
voilà.
Michel, bien
le
sûr.
Chien hein, est une personne.
Laetitia, on revient dans un instant. On va accueillir un vétérinaire dans quelques instants. Le vétérinaire des animaux sauvages, vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes
Norine
à Paris.
Chaille.
Exactement. On en parle dans quelques instants. Le 32-16 ou animaux@rmc.fr pour nous joindre, bien sûr, comme d'habitude. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Vous êtes toujours avec nous, c'est le week-end des experts des animaux avec Laetitia Barlerin à mes côtés, comme chaque dimanche, 6h-8h. Tout à l'heure, on évoquera la réintroduction des dissections d'animaux dans les collèges et les lycées. Ce sera après la météo et les infos. Une mauvaise nouvelle, on va dire, pour les amoureux des animaux. Et puis, tout à l'heure, on découvrira cette belle histoire de Baritou, un cheval qui a échappé 3 fois à l'abattoir. Karina Max sera avec nous pour nous raconter cette histoire. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va s'intéresser aux animaux sauvages. J'ai rencontré un vétérinaire qui soigne les animaux sauvages.
Et oui, qui s'appelle Norine Schein, qui est docteur vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris et auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Larousse, Jungle Doctor. Alors docteur, bienvenue.
Bonjour Norine.
Bonjour Norine.
Bonjour.
Bonjour, tu vas bien?
Oui, merci pour l'invitation.
Alors, ton métier en fait rêver. Plus d'un ou plus d'une, hein, on va dire, hein, parce que tu soignes les animaux sauvages, non seulement à la ménagerie du Jardin des Plantes, mais aussi aux quatre coins du monde. Et bien sûr, la première question que se posent les enfants, c'est comment devient-on docteur d'Actari?
On devient avec le cœur.
Mais encore, quelques études quand même.
Avec le cœur et beaucoup de motivation et de travail, oui. On devient. Mais ce qui est important surtout là-dedans, c'est la passion qui est le moteur de tout. Et bien sûr, beaucoup de travail, bien sûr.
Alors, c'est quoi ton quotidien à la ménagerie du Jardin des Plantes, hein, ton quotidien de vétérinaire de zoo? Je sais qu'il y a beaucoup d'émissions, de documentaires qui sont faits sur les docteurs vétérinaires dans les zoos. Alors, c'est quoi ton quotidien?
Alors, mon quotidien, moi, il est particulier puisque le zoo, comme tu le sais, appartient au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Oui.
Donc, on a une partie recherche et donc beaucoup de recherche de sciences. On a la particularité d'aller loin dans le diagnostic. Donc, mon quotidien, c'est vraiment de m'occuper des animaux, non seulement dans un aspect médical, mais aussi de bien-être.
Oui.
Ça, c'est vraiment la première chose.
Le bien-être, c'est quoi dans les zoos?
Le bien-être animal passe par tout ce qui est enrichissement, répondre au mieux à tous leurs besoins, aussi bien psychologiques que physiologiques, et du training aussi, training médical. Nous avons la chance d'avoir un staff animalier motivé qui nous permet d'écrire et de mettre en place des protocoles de training médical qui permettent non seulement d'enrichir la relation que le soigneur a avec l'animal, mais aussi d'enrichir le quotidien de l'animal.
Alors peut-être expliquer ce que c'est le training, le medical training.
Alors le medical training permet de, grâce à des procédures régulières quotidiennes, permet de d'éduquer l'animal sauvage à faire certaines choses, par exemple aller dans une caisse, se présenter devant le vétérinaire pour qu'il puisse l'examiner sans pour autant le capturer ou le traumatiser.
Voilà, comme ça on évite d'anesthésier un animal pour faire une échographie par exemple.
Ah oui.
ou une prise de sang. Voilà.
C'est ça.
C'est un jeu, un jeu pour lui.
Oui, c'est exactement. C'est comme si je te caressais la tête.
Oui, mais tu ne feras pas une prise de sang, ça, je suis sûre. Je saurais me défendre.
Non, mais vous savez quoi, Norine, je vous aiderai, je la tiendrai. Comme ça, il n'y aura pas de souci.
Merci, merci bien.
Je vous en prie.
Et quel est l'animal? Parce que tu en as soigné pas mal quand même d'animaux sauvages, hein, beaucoup plus que moi, c'est sûr. Mais quel est l'animal qui t'a vraiment marqué ou pour lequel que tu as le plus d'affection peut-être?
La hyène.
La hyène, tiens.
Ah mais attends, parce que je crois que la hyène, ça a quand même été ton premier animal de compagnie.
Oui, c'est ça. Tu t'en souviens. Oui.
Raconte quand même, parce que voilà, on rencontre pas une hyène dans une animalerie, quoi.
Non, c'est vrai. Alors, en fait, à l'époque, j'étais directeur d'un parc national au Tchad, et on m'a apporté une hyène, une petite hyène rayée, tout d'un mois, et je l'ai élevée, je l'ai nourrie, et.
T'as fait emprisonner ensuite, celui qui t'avait apporté la hyène.
Non, mais
je te précise.
J'ai emprisonné effectivement le braconnier et j'ai dû la laisser en fait dans le parc quand je suis parti. Donc ça, c'était ma première.
Mais c'est quoi une hyène au quotidien en animal de compagnie? Ça ressemble à un chat ou à un chien?
Ça ressemble à une hyène.
C'est affectueux.
C'est adorable.
Et pourtant, ça a une image quand même assez déplorable. Comme
animal. C'est dommage. Hein. Mais parce qu'en fait, c'est véhiculé par le roi lion ou autre chose, mais sinon, c'est super adorable. Alors, faut faire attention. Il faut faire attention pour différencier les hyènes rayées, qui est solitaire, c'est celle que j'ai eue, et les hyènes tachetées, qui vivent en groupe, et c'est celle qu'on voit au roi lion. En
fait. Ah, d'accord.
Donc, c'est pas la même chose. Et donc j'ai une. Et ensuite, quand j'étais parti en Afrique du Sud, on avait récupéré une hyène, cette fois-ci brune, oui, qui était prise dans un piège à braco, pareil. Elle avait le cou complètement lacéré. Donc j'ai fait une chirurgie rapide. Il n'y avait pas rien de particulier. Mm-hmm. Mais ce qui était beau là-dedans, c'est que, enfin beau, horrible aussi en même temps, c'est que juste après la chirurgie, elle m'a fait un arrêt cardiaque.
Aïe.
Ah. Et là, je lui ai dit, si tu meurs, je te tue.
C'est vraiment la chose à dire à ce moment-là.
C'est ça. Donc, j'ai perfusé, j'ai secoué dans tous les sens, avec de la force et l'arme, comme tu peux imaginer.
Comme, dans Grey's Anatomy, oui.
Et là, elle est repartie.
D'accord.
Et tu l'as.
Et elle est repartie. Donc, j'ai ressenti son pouls, elle a respiré de nouveau.
Oui.
Et ensuite, on l'a relâchée dans la nature. Et là, tu vas me rire quand je t'en parle, j'ai encore la chair de poule. Et c'était super beau, donc tout le monde a pleuré évidemment.
Ouais.
Et c'était trop beau parce qu'en fait, on s'est battu tous avec le staff, les Eco Rangers, et puis pour la sauver. Ensuite, je me suis battu avec la chirurgie, et la chirurgie. Et quand on l'a relâché, on a vraiment senti qu'on servait à quelque chose.
Elle vous a remercié, j'espère bien.
Merci Norine pour ce témoignage, super. Franchement,
merci,
ça donne vraiment envie de découvrir votre livre Jungle Doctor.
Il n'y a que des histoires vécues, bien sûr, auprès des animaux sauvages que tu relates dans ce Jungle Doctor. Et vraiment, j'encourage beaucoup de personnes à lire ce livre, à acheter ce livre et à offrir surtout ce livre à des enfants qui veulent être vétérinaires.
Bien sûr, ça peut susciter des vocations.
Exactement.
Merci Norine, merci beaucoup.
Merci Norine. Bonne journée à toi. Merci, je t'embrasse. Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà,
au revoir.
Ce livre aux éditions Larousse. On revient dans un instant, Laetitia, et on enchaînera après la météo et des infos avec d'autres sujets. On va parler de la dissection d'animaux qui revient dans les collèges et les lycées. Et puis, une belle histoire d'un cheval qui a échappé 3 fois à l'abattoir. À tout de suite après la météo, les infos de 7h30. Laetitia Barlerin, une petite question flash. Et nos amis les canards sont complètement d'accord. Vous savez que nous avons beaucoup de canards qui nous écoutent le dimanche matin.
Ils sont réveillés, les oiseaux sont réveillés très tôt. Hein.
Évidemment. La question de Pascal que nous avons reçue par mail, Laetitia. Est-ce possible que le chat transmette le ténia à l'homme? Rappelons que le ténia, c'est ce
vert solitaire. Alors, le vert solitaire de l'homme ne se transmet pas d'abord au chat. Donc du coup, le chat ne peut pas nous le transmettre. Hein, vous avez bien compris. Hein. L'homme se contamine en mangeant du steak qui est parasité et qui est cru ou mal cuit. Bon, ça déjà. Alors, mais par contre, c'est vrai qu'il existe un ténia du chat. Le vrai ténia du chat, qu'il attrape lui en mangeant des rongeurs, en mangeant des abats de rongeurs, hein, en mangeant des souris, etc.
Oui, c'est le même problème qu'avec les humains. C'est dans la viande, en fait.
Voilà, c'est dans la viande. Et lui, il peut transmettre à d'autres chats, mais ils peuvent pas le transmettre à l'homme.
D'accord.
Et puis il y a un dernier ténia qui est celui transmis par la puce, et là nous on peut l'avoir ce ténia si on mange les puces.
Ah oui, il faut vraiment être gourmand, quoi, ou pas s'en rendre compte.
Juste manger la puce, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Le chat, lui, vraiment l'attrape en mangeant la puce, mais ça, c'est normal, parce qu'il se lisse le poil,
bien sûr,
il absorbe les puces. Mais enfin, un homme qui mange une puce, Je sais pas, ça arrive souvent.
Non. Et rappelons que le ténia, c'est pas grave, hein, Laetitia. Hein. Enfin, c'est pas quelque chose qui est vraiment.
Si, quand même, c'est un verre intestinal. Oui, pour le chat, en tout cas.
Ah non, mais pour l'humain, je veux dire, c'est quelque chose qui se soigne facilement, aujourd'hui.
Il se soigne, oui. Il faut le soigner.
Voilà, c'est ça.
Mais vous-même, vous ne pouvez pas transmettre au chat, comme le chat ne peut pas transmettre le verre solitaire à l'homme, bien sûr, parce que ça passe pas par le chat.
Donc, on peut faire des petites papouilles sans aucun problème, sans se dire.
Voilà. Mais il y a d'autres verres. Donc, faut quand même le vermifugé, parce qu'ils peuvent quand même être transmis ces autres verres.
Tous les combien vermifugés son chat, Laetitia?
Tous les trois mois,
n'oubliez pas, ça c'est important. Et oui, une règle d'hygiène très importante.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Encore une fois, merci de nous suivre, comme tous les dimanches sur RMC, 6h-8h, votre rendez-vous animaux. Exclusif RMC, unique en France, 2 heures entières dédiées aux animaux. C'est avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Notez que juste après, à 8h, après les infos et la météo, eh bien vous retrouverez Jean-Luc Moreau qui sera à mes côtés pour 2 heures dédiées à l'automobile, comme chaque dimanche, bien évidemment. Laetitia, tout à l'heure, on va découvrir une belle histoire, l'histoire de Baritou. Qui est Baritou, la tia-tia?
C'est un cheval.
Ouais.
C'est un cheval qui a échappé 3 fois aux abattoirs. Et c'est Karina qui l'a sauvé. Elle nous racontera sa belle histoire.
Voilà. Et puis, on terminera ce rendez-vous animaux avec une note amusante, une vidéo où vous voyez des chiens conduire des voitures.
Et passer leur permis, je crois.
Et passer leur permis. C'est un truc incroyable.
Ah oui.
En plus, ils sont hyper concentrés, sérieux. Ils ont la ceinture de sécurité. Enfin, voilà.
Ils passent les vitesses.
Voilà. Ils conduisent vraiment. On vous fera découvrir cette vidéo tout à l'heure. Mais dans les médias, Laetitia, on va parler de dissection d'animaux dans les collèges et les lycées. On croyait que ça allait disparaître. Eh bien non.
Eh bien non. Et nous sommes avec Arnaud Javard, qui est porte-parole de l'association Pro Anima. Bonjour Arnaud, qui est Pro Anima, qui est une association dédiée aux alternatives aux expérimentations animales. Absolument. Alors Arnaud, le 28 novembre 2014, une circulaire du ministère de la Recherche interdisait les dissections sur vertébrés, donc ça veut dire les souris, les grenouilles, etc., dans les classes de collège et lycée. Or, aujourd'hui, cette interdiction a été annulée par le Conseil d'État. Mais que s'est-il passé?
Alors en fait, il y a un syndicat des enseignants, le SNES, qui est intervenu pour en fait pointer des failles, on va dire, des failles, et donc faire annuler cette circulaire pour pouvoir reproposer la dissection dans les collèges et les lycées.
Bah, moi, je trouve ça incroyable qu'on oblige quand même les élèves de faire des dissections sur des souris, des rats. C'est quoi leur motivation? Quels sont leurs arguments quand même?
Alors, il y a deux types de motivation. Sur la forme, c'est une faille dans le droit, pour faire simple, parce que le droit, c'est toujours assez compliqué. Mais la circulaire a été considérée comme litigieuse, parce que on peut jouer sur le fait que dissection, c'est pas de l'expérimentation animale. C'est-à-dire que les animaux sont pas, travailler dessus quand ils sont encore vivants. J'espère que je suis assez claire.
Oui.
Ils ont joué là-dessus.
Enfin bon, on les tue juste avant, hein.
On les tue juste avant, et pour cette raison-là, hein, pas, ils sont pas morts naturellement. Et sur la forme, et donc sur le fond, les enseignants de SVT, de biologie, veulent, comme ils affirment sur le site, favoriser un contact avec le monde réel, et ils estiment que les alternatives ne sont pas crédible, et en plus ils estiment que ça aide à respecter le vivant.
Ah bon ?
C'est beaucoup de choses qui nous font bondir, vous imaginez bien.
Bah oui, parce que, attendez, les alternatives, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, alors je dis pas que les alternatives, c'est de montrer un dessin au crayon d'une anatomie de souris, mais on est quand même en 2016, on a quand même des alternatives.
C'est ça qui nous choque beaucoup, c'est qu'au-delà même du droit, des questions de droit, c'est que ces alternatives, elles ont été invalidées par principe, sans rien connaître de ce domaine, qui est un domaine vraiment passionnant, que ce soit les enseignants ou même les chercheurs en France, ils ont vraiment un déficit de connaissances.
Ouais.
Et les alternatives, il y a des préjugés, elles sont invalidées par principe. Nous, on a écrit au syndicat pour savoir hier qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mettre en place des projets sur un établissement pilote. Est-ce qu'ils avaient essayé de se renseigner? Nous,
est-ce que vous avez comme alternative concernant, par exemple, découvrir l'anatomie d'un vertébré?
Alors, en fait, il y a pas mal de choses. Déjà, il y a eux, ils parlent de manière un peu bête de maquettes en plastique, mais c'est carrément des modèles PVC qui sont extrêmement réalistes, très sophistiqués, on va dire.
Oui, vous savez que nous, vétérinaires, on travaille dessus quand même. Hein.
Bien sûr.
On a des modèles. D'accord. Voilà, bien sûr. Nous, on a des modèles, justement, déjà des modèles informatiques, hein, en trois dimensions. Maintenant, on fait des choses incroyables.
Oui.
On voit très bien, par exemple, la circulation du sang, où elle va, etc.
Exactement.
Et puis même nos modèles, soi-disant en plastique, ça nous aide, nous, à expliquer aussi aux propriétaires une pathologie.
Mmh. Et c'est ça. Et puis en plus, alors nous, on parle beaucoup de certaines start-up qui ont créé des outils comme la table de dissection virtuelle, où si on va sur nos newsletters, on voit le lien, où le rendu est incroyable. Et on est persuadé que les jeunes, ils adoreraient travailler là-dessus.
Mais bien sûr.
Plutôt que de travailler sur des souris qui ont été tuées à cet effet. C'est ça qui est un peu choquant. Quoi.
Bah, moi, ce qui me choque aussi, Arnaud, c'est que vous savez qu'il y a toute une législation en Europe sur l'expérimentation animale. On sait que l'Europe a interdit de tester les cosmétiques sur les animaux. On sait que l'expérimentation animale pour la recherche est bien cadrée. Oui. On demande de diminuer les animaux, ce qui a été fait par les laboratoires. Par exemple, en France, pour faire de l'expérimentation animale, il faut être formé. On a une formation. N'importe qui peut pas faire n'importe quoi sur un animal. Alors que là, on donne des animaux vivants à des professeurs. J'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Mais quelle légitimité ont-ils en matière d'euthanasie?
Alors, juste je reviens sur ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Il y aurait, j'ai lu sur un blog d'un professeur syndicaliste favorable aux dissections, des profs de SVT qui refusent de faire les dissections. Ce qui veut bien dire qu'elles sont pas indispensables qu'elles sont. Et d'ailleurs, j'ai posé la question moi-même qui refusais les dissections. Est-ce qu'on peut dire que j'ai un déficit dans mon instruction? Non, pas du tout. Je connais le monde réel et je sais agissent.
Bah ouais, moi, étant vétérinaire, je n'ai jamais fait de dissection quand j'étais au collège ou au lycée et j'ai toujours refusé d'en faire. Et pourtant, j'ai opéré pas mal d'animaux depuis. Mais voilà, c'était pas pour moi nécessaire. Ouais. Est-ce qu'un élève, d'ailleurs, peut refuser?
Oui, c'est vrai.
Elle peut dire à son prof, non, moi je n'assiste pas au cours parce qu'il y a une dissection.
C'est un peu, il n'y a pas d'objection de conscience. Nous, on a eu plein de témoignages qui sont arrivés ces dernières années. Alors, c'est un peu au cas par cas. Des profs peuvent comprendre. D'autres peuvent être plus moqueurs, mettre un 0 sur 20. Donc, c'est un peu au cas par cas. Il n'y a pas... Quand on est dans le collège ou le lycée, on peut se passer de la dissection. Après, dans l'enseignement supérieur, c'est plus difficile. Là aussi, on a des témoignages. Mais il faut savoir que même ces alternatives dont on parle, même dans l'enseignement supérieur, ils pourraient sûrement réduire facilement le nombre d'animaux utilisés, parce qu'il y a des outils vraiment incroyables en 2016.
Surtout que voilà, on a quand même des règlements européens.
Ouais, mais c'est vrai que ça fait une pratique rétrograde, quoi.
Surtout aujourd'hui, je veux dire, vraiment
d'un autre âge.
Mmh. Et des refus de principe, ce que j'appelle ça moi, où on veut peut-être pas, je pense que les professeurs ont peut-être pas apprécié, c'est mon interprétation, que une autre une cause vienne interférer dans leurs droits, dans leur liberté de choisir comment ils vont faire leurs apprentissages aux enfants. C'est un peu mon interprétation. On a vraiment cette impression quand on voit tout ce qu'ils ont fait pour interférer dans cette circulaire. Mmh. Il y a vraiment une sorte de refus de principe parce qu'ils avaient déjà fait une demande en 2015.
Peut-être que ça vient pas d'eux.
C'est le syndicat des professeurs qui a vraiment. On voit, ils ont tenu à agir contre la circulaire.
Et alors, quel recours on peut avoir?
Oui.
Alors là, il y a des idées qui arrivent. Déjà, on ne veut pas, on va pas braquer le ministre de l'enseignement et de la recherche, parce que le fait que ce ministère ait refusé d'annuler sa circulaire en 2014 montre qu'ils sont peut-être réceptifs plus que le syndicat à cette idée d'arrêter les dissections. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils ont saisi le Conseil d'État, parce que le ministère avait refusé d'annuler sa circulaire.
Ah, d'accord, ils ont été au-dessus.
Donc je pense que le ministère est peut-être favorable et ils sont juste victimes d'une circulaire peut-être maladroite. Donc nous, on va reprendre contact avec le ministère et lui dire qu'elle peut signer un arrêté, elle peut faire quelque chose, madame la ministre. Elle peut signer un arrêté et respécifier
qui peut ne pas être attaqué, tout simplement.
Voilà. Et même le Conseil d'État, quelque part, rarement je me fais l'avocat du diable, mais là on peut dire que eux ils ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire de mettre le doigt sur un vice de forme de la circulaire.
Oui, bien sûr. Oui. C'est pas sur là, le fond qu'ils ont plutôt jugé. Voilà. C'est plutôt sur la forme.
C'est la forme, et ils ont sûrement, le syndicat avait des avocats pour trouver ça. Mais c'est ça qui nous surprend, c'est qu'il y a quand même eu une grande mobilisation du syndicat pour trouver ces failles. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de chercher à avancer dans la bonne direction.
Exactement, je veux dire, c'est une perte d'argent et de temps.
Ben oui, on aimerait bien qu'ils nous contactent. Qui nous disent...
Oui, bien sûr.
Arnaud Gavard, merci beaucoup.
Merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Pro Anima.
Merci
beaucoup. Et bon dimanche à vous.
Au revoir. Bon dimanche.
Laetitia, sujet un petit peu plus heureux dans quelques instants avec une belle histoire comme on les aime dans ce rendez-vous animaux. On va découvrir Baritou. Baritou qui a eu beaucoup de chance puisqu'il a échappé 3 fois à l'abattoir. Baritou est un cheval et Karina McLaughlin sera avec nous pour nous raconter cette histoire. 3216 animaux@rmc.fr. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin. C'est votre rendez-vous animaux du dimanche matin, exclusivement sur RMC. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Le retour du week-end des experts, les animaux, dernière partie. Avant de retrouver la météo des infos de 8h et Jean-Luc Moreau pour l'automobile, comme chaque dimanche, 8h-10h, on a sélectionné pour vous une petite vidéo lolcat bien sympathique des chiens qui conduisent des voitures. Eh ouais, franchement, bientôt des chiens dans Top Gear, les amis. On va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, Laetitia, on va découvrir l'histoire incroyable de Baritou.
Et voilà, c'est un cheval qui a échappé 3 fois à l'abattoir. Et nous sommes avec Karina McLaughlin, qui est photographe d'art et auteur de Le clan des vagabonds aux éditions de l'Escargot Savant. Je vais y arriver.
Eh bien, dis-toi.
Ça a été dur.
Ça a été dur, mais on y est arrivé. Bonjour Karina.
Bonjour Karina, excusez-moi.
Bonjour à vous deux, bonjour.
Alors, le magazine 30 millions d'amis a relaté récemment l'histoire donc de Baritou. C'est un cheval magnifique, mais réputé dangereux et indomptable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a failli finir à l'abattoir. Ce cheval est entré dans votre vie un beau jour de janvier 2014. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Eh bien, en fait, c'est un cheval qui avait été acheté au Portugal chez un grand éleveur, un cheval avec des origines prestigieuses. Mmh. Et puis, il a été travaillé donc dans une écurie en Suisse pour être revendu comme cheval de haute école. Et la personne qui l'a acheté s'est trouvée très vite débordée par le caractère du cheval et son potentiel. Oui, impétueux, déjà il était entier, donc voilà. Et puis elle n'avait pas, on va dire, les capacités ou le niveau de connaissance peut-être pour arriver à canaliser un petit peu toute cette énergie. Donc elle a eu des soucis avec parce que le cheval s'est montré un peu agressif avec elle. Mmh. Et puis elle l'a revendu à un monsieur qui était passionné par les origines pour la race des Lusitaniens, mais surtout par les origines de ce cheval. Et lui aussi il s'est retrouvé dépassé totalement par le caractère du cheval. Donc il a décidé, pour éviter les accidents par rapport à un nouvel potentiel acquéreur ou par rapport au cheval, de le mettre dans un abattoir. Et puis les abattoirs étaient surchargés, donc j'ai eu connaissance de l'histoire totalement par hasard. C'est-à-dire que moi j'étais au téléphone un soir avec Anouk Thibault, qui est présidente du refuge de Darwin, on discutait. Et puis
un refuge suisse, hein.
C'est un refuge suisse et français. Il y a le refuge de Darwin France et le refuge de Darwin Suisse. Mais bon, Anouk Thibault est la fondatrice et la présidente du refuge de Darwin Suisse. Et donc on était au téléphone en train de discuter. Je racontais l'histoire d'un autre entier qui est à la maison, que j'ai plus d'une quinzaine d'années, qui était aussi qui avait aussi une histoire compliquée. Et puis à ce moment-là, elle reçoit un mail d'une dame qui voulait l'avertir de la situation de Baritou. Et Anouk, en plaisantant, me dit « tu veux un deuxième gabito ?» Et puis elle me dit « voilà, c'est un Lusitanien qui va finir à la boucherie parce que plus personne n'arrive à le gérer. » Et vu le contexte et les circonstances, j'ai écouté mon intuition et j'ai dit à Anouk « écoute, je vais le récupérer, ce cheval. » Donc ça s'est passé vraiment totalement par hasard.
Et très vite, vous avez pris la décision de l'accueillir chez vous. Vous aviez déjà d'autres chevaux. Comment s'est passé quand le cheval est arrivé chez vous ?
Alors, quand le cheval est arrivé à la maison, on l'a débarqué du vent. Il était vraiment totalement absent, éteint, terne, sale, l'œil très vide. Et je suis rentrée dans le vent, j'ai ouvert la porte pour l'apercevoir, parce que je connaissais rien du cheval. Hein. Je savais absolument pas comment il était. Et puis, il était vraiment calme, mais absent, quoi. Donc, on l'a sorti du vent et je l'ai lâché dans une petite carrière que j'ai devant la maison et je l'ai laissé en liberté un moment. Je l'ai observé comme ça de loin, j'ai regardé et puis il était absolument, il avait aucune réaction, c'est-à-dire qu'il y avait tous mes autres chevaux à l'extérieur dans leur pré entier évidemment, donc qui hennissait, qui l'appelait, qui s'interrogeait sur ce nouveau cheval et lui était totalement indifférent à tout ça, donc
mais il était quoi, il était en dépression ou
je pense que il était resté enfermé quand même depuis pas mal de temps parce que plus personne osait lui mettre à l'école et l'approcher et le sortir, donc il est vraiment peut-être un peu neurasthénique et puis il était renfermé sur lui-même quoi, donc après j'ai pas tous les détails de ce qui s'est passé, mais enfin il y a eu quand même un problème au niveau de son mental quoi, il a été choqué ce cheval.
Et là vous n'avez pas eu peur de lui du tout, parce que à un moment vous êtes approché de lui.
Oui, tout à fait. Déjà, j'ai dû le détacher dans le vent. En plus, il a chargé normalement. Quand il a été chargé par mon ami, un outil, il s'est chargé correctement. Enfin, il n'a pas posé plus de problèmes que ça. Et quand je l'ai sorti, il était vraiment. Il n'y avait aucune violence chez ce cheval. Vraiment juste de l'indifférence, quoi. Et donc, je l'ai laissé vraiment en liberté un moment. Et puis après, je l'ai appelé. Il est venu vers moi. Je lui ai mis à l'école. J'ai rentré dans son box. Je lui ai mis une couverture. Parce que c'était l'hiver, il faisait froid. J'ai pris aucune précaution, c'est-à-dire que j'ai pas abordé ce cheval comme si c'était un cheval dangereux. Je l'ai abordé comme un cheval normal. Et le cheval, il a vraiment été tout à fait gentil avec moi, quoi. Il n'y a eu absolument aucune violence
attendez,
de sa part.
Comment, c'est quand même un cheval qui faisait peur à ses propriétaires précédent, qui était réputé dangereux, inapprochable, etc. Vous avez sauvé en tout 8 chevaux dits difficiles. Comment faites-vous? Comment avez-vous fait avec lui? C'est quoi? Vous avez été calme avec lui? Alors, je sais que vous n'avez pas essayé de le monter tout de suite, mais vous l'avez photographié. Alors, est-ce que c'est le secret, c'est de photographier les chevaux?
Les photographies sont venues après. Hein. Honnêtement, dans l'état où il est arrivé, il n'était pas photographiable, à part pour les archives. Déjà, je suis très calme. C'est vrai que j'ai des dizaines d'années d'expérience avec des chevaux compliqués. C'est des chevaux que j'apprécie beaucoup parce que c'est des chevaux qui s'expriment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces chevaux qui sont nommés comme agressifs ou rétifs, bien souvent, c'est des chevaux qui se sont paniqués par rapport à des situations qu'on leur a imposées qui n'étaient pas justes pour eux. Et cette panique a engendré des réactions violentes de fuite, d'agressivité, faire face à l'homme. Mais quand on les met dans un contexte qui est calme, avec quelqu'un qui est à peu près serein en face d'eux, et puis où on leur laisse la possibilité du mouvement, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de les coercitionner en les enfermant, en les tenant, en les retenant, en leur faisant peur avec une badine, une chambrière ou quoi que ce soit, ces chevaux-là, ça pèse vraiment, quoi. Donc oui, que je peux pas vous expliquer vraiment
vous savez, on parle beaucoup des chuchoteurs, ceux qui parlent à l'oreille des chevaux. Vous dites que vous êtes pas un chuchoteur, mais plutôt un écouteur. Vous écoutez les chevaux, c'est ça?
Oui, je les laisse s'exprimer. C'est-à-dire que j'essaye pas de demander des choses aux chevaux quand les chevaux dans cet état-là arrivent chez moi. Je cherche à rien leur imposer. J'essaie juste de comprendre ce qu'ils sont et pourquoi ils sont comme ça. Donc j'ai la possibilité, parce que l'endroit permet au niveau des parcs, des espaces et tout l'environnement, ça me permet de lâcher les chevaux puis de les laisser vivre en liberté dans leur pré, dans leur box. Enfin, comment vous dire, j'arrive à faire en sorte que ces chevaux puissent s'exprimer et je leur demande pas de quelque chose où je les oblige pas à faire quoi que ce soit. Donc ça change complètement les paramètres dans l'esprit du cheval. Et puis il y a aussi une expérience, hein. Il faut reconnaître que la manière de les aborder, de les toucher avec une assurance et une confiance. Alors je parle pas de peur parce que j'ai pas peur de ces chevaux-là. Je suis très très vigilante par contre, parce oui. qu'il faut savoir comment se placer, comment les approcher et tout ça, pour pas se mettre en danger ou faire en sorte que le cheval se retrouve coincé et que là il puisse avoir des réactions violentes. Donc c'est toute une manière de bouger avec le cheval, mais c'est vrai que je passe énormément de temps dans la contemplation avec ces animaux et que j'apprends énormément de choses, et de passer du temps avec eux sans rien leur demander fait que ces chevaux s'intéressent à moi, ils ont cette curiosité bienveillante.
C'est vrai.
Et n'importe quel cheval, même celui qui était étiqueté le plus agressif du monde, vous lui laissez la possibilité du choix. Il va chercher la paix envers vous, il ne va pas être agressif. Hein.
Merci beaucoup Carina.
Merci Carina, je suis vraiment d'accord avec vous. Faites une expérience une fois, allez dans un pré où il y a des chevaux et asseyez-vous au milieu du pré et faites rien. Juste regarder. Vous verrez que les chevaux viennent s'intéresser à vous, même si au début, ils vous ont vu arriver, ils ont galopé de l'autre côté. Vous allez voir, c'est une très bonne expérience.
Carina McLaughlin, merci.
Merci Carina, en tout cas. Merci pour Baritou.
Et puis,
qui va très bien aujourd'hui.
Baritou est un cheval heureux maintenant.
Qui est un cheval heureux.
Laetitia, après le cheval heureux, on va parler d'un chien heureux. Un chien qui conduit une voiture. Alors, je ne sais pas s'il a eu son permis dans les bonnes conditions, mais en tout cas, la vidéo LOLCAT qu'on vous fait découvrir ce matin est quand même assez impressionnante. On se croirait, les amis, dans Top Gear. On s'y croirait.
Et
voilà.
Je pense qu'il faut vraiment penser à eux pour un prochain numéro de Top Gear, parce qu'ils sont vraiment formidables.
Voilà, ce sont des chiens qui conduisent des voitures. Mais carrément, ils sont à la place du conducteur. Ils ont la ceinture de sécurité et ils ont leurs pattes comme ça sur le volant.
Et ils ont appris.
C'est
alors, on vous montre dans la vidéo comment ils ont appris justement sur un modèle de volant, de pédale. Et vraiment, c'est incroyable parce qu'ils se tiennent bien droit sur le siège comme un conducteur et hop, ils tournent le volant.
Une vidéo à retrouver donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et tiens, belle transition puisque, après les chiens qui conduisent les véhicules, c'est Jean-Luc Moreau qu'on va retrouver pour l'automobile dans un instant après la météo des infos.
Qui
est un autre cabot.
Faut le dire.
Voilà, ça c'est vrai. Mais bon, attention, il va venir en studio, il va vous embêter après la tétia. On se retrouve dimanche prochain, Laetitia, à 6h-8h.
Bon dimanche à tous, je vous souhaite une très bonne semaine. À dimanche prochain.
Météo Info. Et on retrouve Jean-Luc à mes côtés dans un instant. À tout de suite.